Radio Okapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Nous commençons ce journal par cette interpellation provenant des organisations de la société civile de la partie est de la RDC à l'endroit du pouvoir de Kinshasa. Il est impérieux de décrisper le climat politique pour favoriser la cohésion nationale, gage pour une paix durable en RDC, conseille-t-elle. Nous allons aussi nous appesantir sur ce calvaire de Kinshasa au quotidien. Il devient pratiquement difficile de circuler aisément à bord des véhicules dans la capitale. Des bouchons, embouteillages monstrueux deviennent le lot journalier des Kinois, rendant compliqué en tout cas toute mobilité. Ce vendredi 25 avril, c'est le point culminant de cette situation. Père Jean-Pierre Bojoko, prêtre de la Compagnie des Jésus, journaliste expert en politique et ancien responsable de la section africaine francophone de Radio Vatican à Rome en Italie, intervient fin de ce journal comme invité. Il parle des obsèques du pape François et préparatifs de son enterrement. Nous nous retrouvons sous peu pour aborder d'autres aspects et contours de l'actualité du pays. Le tout, c'est sur Radio Okapi, votre source d'information de prédilection. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. De partout où vous nous suivez en RDC, bonsoir. Le collectif des organisations de la société civile de l'Est qui milite pour la paix demande aux autorités de Kinshasa de décrisper le climat politique pour favoriser la cohésion nationale, gage pour une paix durable en RDC. À Kinshasa, il y a des situations qui ne sont pas de nature à encourager la décrispation et tous les indices sont en train d'être réunis pour une aggravation de la situation, s'exclame un des membres du collectif. Jean-Chrysostome Kijana du consortium Pamoja Kwamani, traduisé Ensemble pour la paix, demande aux acteurs politiques et responsables rebelles de FCM23 de privilégier un dialogue sincère pour aboutir à une paix véritable. Les vies humaines continuent à être fauchées dans la ville de Bukavu. Deux personnes ont été tuées, l'une par balle, l'autre un présumé voleur brûlé vif par la population dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi au quartier d'Endere. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Une troisième personne a été grièvement blessée par balle. D'après le chef du quartier Migabo Nyagaza Albert, les bandits ont fait irruption dans une résidence tuant le père de famille, son épouse, touchée par balle, se trouve à l'hôpital. On l'écoute.
Dans cette nuit du 25 avril 2025, trois personnes armées ont attaqué rigoureusement la famille de Bouchekabiri Karani, âgé de 45 ans, sur avenue ISGA et l'ont arraché la vie. Son épouse grièvement blessée, internée à l'hôpital de la place. Après plusieurs tentatives d'ouvrir la porte, ils ont utilisé une grenade pour forcer la porte. Ça fait la deuxième fois que ces gens viennent dans moins d'une semaine pour attaquer cette même famille, pour attaquer cette même avenue. Nous déplorons cette manière de faire des inciviques qui nous endettent du jour au jour. Nous voulons encore une fois rappeler à nos populations du quartier d'Endere à rester toujours solidaire en cas de tel danger.
Quelques nouvelles en bref. La ministre d'État congolaise en charge des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue du Rwanda, Olivier Ndungire, signent ce vendredi 25 avril à 19h de Kinshasa une déclaration des principes en vue du rétablissement de la paix dans l'Est congolais déstabilisé depuis plus de trois décennies. C'est ce qu'indique l'agence congolaise de presse sur son compte X. Le gouvernement congolais et les experts des Nations Unies accusent régulièrement le Rwanda de pillage des ressources naturelles congolaises. Selon plusieurs sources, ces minerais pillés sont revendus aux firmes asiatiques et occidentales, précise l'AFP. Pour sa part, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectue un déplacement à Rome, en Italie, afin de prendre part aux funérailles de sa sainteté, le pape François, qui auront lieu ce samedi 26 avril à la Cité du Vatican. Cette annonce est contenue dans un communiqué publié par la presse présidentielle. Par sa présence à ses funérailles officielles, le chef de l'État tient à rendre un dernier hommage au souverain pontife qui n'avait cessé de manifester sa sollicitude à l'endroit du peuple congolais à travers ses intentions de prière pour la paix. Au cours de cette visite de compassion, le président de la République va rencontrer les responsables du Vatican avec qui la République démocratique du Congo entretient d'excellentes relations séculaires. La visite apostolique du pape François du 31 janvier au 2 février 2023 reste inoubliable au sein de l'Église familiale des dieux qui est en République démocratique du Congo, indique le communiqué. Dans le Nord Kivu, à Goma, l'Institut Neema Efata, une école dédiée à l'éducation spécialisée pour les enfants sourds, traverse des graves difficultés de fonctionnement depuis la crise actuelle. L'établissement fait face à un faible taux de fréquentation des élèves et de plus, la moitié des enseignants ne sont pas pris en charge par l'État et ne perçoivent aucune rémunération. Auparavant, ces enseignants non payés par le gouvernement étaient encouragés par la prime versée par les parents. Cependant, depuis le début du conflit à Goma, les parents n'ont plus de revenus. Face à cette situation, les responsables scolaires tentent de sensibiliser les enseignants à poursuivre leur travail malgré les conditions difficiles. Toutefois, ce message ne suffit plus, s'inquiète Amos Tulinabo, responsable scolaire au sein de l'Institut Neema Efata de Goma. Écoutons son témoignage.
Nous sommes à 44 agents, dont 21 sont payés par le gouvernement et 23 ne sont pas payés. C'est que les 23 attendent des frais des parents. Or, les parents aussi sont dans une situation de crise. Ils n'ont pas assez de moyens. On a tenté d'écrire, de sensibiliser les parents, mais eux-mêmes disent non, voilà, nous ne savons pas où toucher et la vie devient de plus en plus difficile. Nous avons pensé à notre niveau comme responsable, sensibiliser toujours les enseignants afin de pouvoir continuer à donner cours en attendant que la situation se normalise. Mais ventre creux n'a pas d'oreille. Malheureusement, ce que nous pouvons demander peut-être aux humanitaires et aux hommes de bonne volonté de pouvoir nous aider. Parce que s'ils ont à manger, peut-être cela pouvait faire en sorte qu'ils oublient et pouvoir aider ces enfants sourds qui sont en difficulté. Parce que les enfants sourds, eux, ne connaissent pas ça. Ils savent qu'ils doivent venir seulement et venir étudier. Et chaque fois quand on leur demande de payer même les petits riens qu'ils peuvent avoir, ils disent « Nos parents n'ont pas de moyens, est-ce que vous oubliez que nous sommes des sourds ?»
À ce sujet, ce responsable souligne que la crise actuelle à Goma affecte durement ses enfants en situation de handicap. Nombre d'entre eux n'ont d'ailleurs pas réussi les examens du premier semestre. Il lance donc un appel pressant aux acteurs impliqués dans la résolution de cette crise afin qu'ils accélèrent le processus et soulagent ainsi la souffrance des milliers de familles à Goma. À 18h07, nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri où des ossements humains ont été découverts ce jeudi à Matembwe, un village situé à 2 km du centre de Kanyota dans le territoire de Mambasa. Selon l'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH, il s'agit des restes des 5 personnes des paysans qui se rendaient dans leur champ et qui avaient été prises en otage par les rebelles des ADF. Martial Kizabiamungu.
Dans son rapport de monitoring publié ce vendredi matin, la CRDH, Convention pour le respect des droits humains, indique que ce sont des cultivateurs qui se rendaient dans leurs champs qui ont découvert des traces d'ossements humains sur leur chemin. C'est après avoir creusé l'endroit qu'ils ont fait cette découverte macabre de plusieurs squelettes humains. La même source qui cite des témoins affirme qu'il s'agit de 5 personnes qui ont été prises en otage par des ADF en octobre 2024 lors de leur passage dans la région de Kanyota. Ces victimes ont été identifiées grâce aux habits qu'elles portaient les jours de leur enlèvement. En février 2024, 20 autres personnes avaient été tuées et enterrées dans une fosse commune par ces mêmes ADF au village de Makilima, rapporte la CRDH, ce qui portait à 350 le nombre de civils fauchés par ces rebelles en 2024 dans la chefferie de Babila Babombi, ajoute la même source. Cette structure plaide pour l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs de ces actes odieux répondent devant la justice. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous vous ramenons ici à Kinshasa pour parler de cette situation qui devient de plus en plus inquiétante. Circuler à Kinshasa est devenu un véritable casse-tête. Les embouteillages perturbent les agendas de plusieurs personnes. C'est le cas de ce parent d'un élève à l'école belge habitant Binza Météo. Ce dernier, qui a quitté sa maison depuis 5h du matin, mais jusqu'aux environs de 9h30, il traînait encore sur la route sans même parcourir la moitié de son chemin. On écoute son témoignage dans ce propos recueilli par Péliki Pelamondo.
Je ne sais pas comment vraiment expliquer ce qui se passe aujourd'hui. D'habitude, quand je quitte la maison, 5h30. J'arrive, je crois bien, 30, 40 minutes en tout cas, je suis déjà à l'école belge. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison à 5h40. Jusqu'à présent, je suis qu'au niveau de école Révérend King. Donc ça fait à peu près, vous faites la différence, hein. Ça fait à peu près déjà presque 4 et 30 que je suis toujours en cours de route, je ne suis pas encore arrivé à l'école. C'est vraiment décevant et puis décourageant de dire que nous voilà, nous vivons dans un pays où il y a l'organisation, là où il y a discipline routière, il n'y en a pas. Sincèrement, en tout cas, c'est vraiment écœurant. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais arriver. Et l'enfant m'a dit parce que deux cours déjà qu'il a raté. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver. Ça m'étonne.
Concernant toujours la capitale, Kinshasa, Kamona, le projet d'extension de cette ville débute au mois de juin prochain. Piloté par Carousel Finance, une société anglo-suisse, le projet devra coûter 50 milliards de dollars et comprendra une ville extra-moderne érigée à 45 kilomètres de Kinshasa dans le but de désengorger la capitale congolaise qui pourrait devenir surpeuplée d'ici 2030. Pour l'instant, plus de 18 milliards ont déjà été mobilisés. Plus de détails avec Ben Chukuta.
Ce projet vise à créer une extension moderne de la ville, capable d'accueillir jusqu'à 50 millions de personnes. Avec un coût estimé à 50 milliards de dollars, cette nouvelle cité sera construite sur une superficie de 43 000 hectares dans la commune de Maluku, à 45 km de Kinshasa. Le projet prévu sur une période de 8 ans ne sera pas financé par l'État congolais, mais par de partenariats publics-privés pilotés par le promoteur financier anglo-suisse Carousel Finance. À ce jour, plus de 18 milliards de dollars ont déjà été réunis, comme l'explique le président fondateur de Carousel Finance, Jaffa Ilali.
Il y a déjà beaucoup plus de 12 milliards qui ont été discutés pour être mobilisés juste pour la cité industrielle.
Pour réussir ce projet, l'État congolais a voulu que le marché soit ouvert à tout le pays.
On a commencé par l'Europe, on est très impliqué au Moyen-Orient, on va organiser un gros événement à Washington et je pense que le Congo veut garder sa politique d'ouverture et donc souhaite diversifier les partenaires. Techniquement parlant, je pense que les Chinois peuvent couvrir les intérêts des besoins en financement de cette nouvelle ville.
Kinshasa qui a comprendra des immeubles résidentiels, un quartier financier, des hôpitaux, une université et une cité industrielle avec 1500 usines. Le chantier est prévu pour débuter en juin prochain et devrait générer environ 30 000 emplois dès son lancement.
Voyons ce qu'est la situation d'une autre partie de la ville de Kinshasa. Cérémonie de dédicace de la commune de Lemba. Nous sommes toujours dans la capitale. Cérémonie, c'est de cette dédicace à Dieu. Elle a eu lieu hier jeudi au terrain GD. Habitants, croyants, autorités locales et leaders communautaires se sont rassemblés pour cela. Pour les organisateurs, cette dédicace est un appel à la responsabilité collective et un pas vers un avenir meilleur. Les habitants, eux, souhaitent voir une transformation durable de leur commune, donc la commune de Lemba. Nancy Atambo pour les détails.
Au cœur de cette initiative, Jean-Serge Popa, bourgmestre de Lemba, rappelle l'importance de cette dédicace pour la vie sociale et spirituelle de la commune.
Toujours dans les traces de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui a dédié la République, nous aussi, nous avons écouté la voix de Dieu et nous avons invité les serviteurs pour venir dédier la commune entre les mains de Dieu.
Les confessions religieuses très impliquées dans cet événement ont salué ce qu'elles qualifient de démarche de restauration spirituelle et sociale. Elles appellent à une mobilisation des consciences. Daniel Basika, coordonnateur de l'IPER, explique le sens de cette dédicace.
Nous sommes en train de travailler avec les institutions pour que nous puissions apporter la lumière de Dieu, les conseils, mais aussi apporter la vie de Dieu dans les institutions.
Pour les habitants, cette cérémonie est un moment d'unité et d'espoir. Entre chants, prières et témoignages, les attentes sont claires, voire une transformation durable de leur commune.
Quand on dédie la terre à Dieu, on voit que c'est le commencement des bonnes choses.
L'événement a été organisé par plusieurs structures, notamment FENEL 2025, le groupe Intercession pour la République, les conseils communaux de la jeunesse de Lemba, en collaboration avec la RTNCD et l'autorité communale. Le thème choisi, Dieu le plus grand héros de la RDC.
Cette autre nouvelle qui concerne presque tous les Congolais à Kinshasa, le temps que prennent les opérations de production et de délivrance des passeports biométriques congolais inquiète plusieurs requérants. Courte période pour quelques requérants chanceux, mais plus long et périlleux pour des milliers d'autres. Ce qui cause de plus en plus des préjudices, notamment aux travailleurs qui doivent regagner leur poste en passant par des pays voisins, les malades qui doivent en urgence aller aux soins à l'étranger et les étudiants qui doivent rejoindre les pays où ils doivent aller étudier. Un des requérants qui vient de passer près de 2 mois d'attente donne ici son témoignage sous couvert d'anonymat. Alain Hirong reprend ses propos.
J'ai introduit ma demande de passeport biométrique depuis le 21 février 2025. Plus de 2 mois après, je n'ai toujours pas de suite, alors que je devrais déjà retourner en province où je travaille, passant par des pays voisins. Depuis 3 semaines, je passe toutes mes journées au ministère des Affaires étrangères pour suivre mon dossier et tous les jours, j'ai une nouvelle explication des agents commis au secrétariat général du ministère et qui suivent mon dossier. C'est parfois la connexion qui fait défaut, parfois l'électricité qui est coupée ou les machines d'impression qui sont en panne. Finalement, je me demande quand est-ce que j'obtiendrai mon passeport. Tout ce que je demande au gouvernement congolais, c'est de crédibiliser ce service de production et de délivrance des passeports biométriques congolais, du fait que ce que nous sommes en train de vivre n'est plus intéressant pour l'honneur du pays.
Actualité internationale.
Après des résultats prometteurs au Malawi, le vaccin contre le paludisme continue de se déployer en Afrique. Le Mali entame une nouvelle phase de vaccination pour protéger les enfants contre cette maladie qui tue encore des centaines de milliers de personnes chaque année. En avril 2019, le Malawi devenait le premier pays au monde à lancer un vaccin contre le paludisme dans le cadre d'un projet pilote soutenu par l'UNICEF et Gavi, l'Alliance du vaccin. 3 ans plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes. Une réduction de 75% des cas symptomatiques chez les enfants ayant reçu 3 doses.
L'invité.
Eh bien, c'était dit dans le sommaire de cette édition. Nous allons terminer ce journal par cet invité. Le pape François sera inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Mais pendant ce temps, sa dépouille est exposée dans la basilique Saint-Pierre où plusieurs personnes sont en train de lui rendre les derniers hommages. Quelle est l'ambiance qui règne sur place? Pour y répondre, nous recevons un invité, le père Jean-Pierre Bodjoko, prêtre de la Compagnie des Jésus, journaliste expert en politique et ancien responsable de la section africaine francophone de Radio Vatican à Rome, en Italie, s'entretient avec Alain Hirong.
Père Jean-Pierre Bodjoko, bonjour. Vous êtes sur place à Rome où plusieurs personnes catholiques et non catholiques viennent rendre les derniers hommages au pape François. Pouvez-vous nous décrire cette ambiance?
Alors, l'ambiance ici à Rome, c'est que la ville est remplie de monde. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de pèlerins et de touristes. Ils sont vers la place Saint-Pierre et pour entrer dans la basilique, il y a des files infinies qui continuent jusqu'à tard la nuit pour rendre les derniers hommages au pape François, que ce soit les fidèles catholiques et aussi les non-catholiques, que ce soit des autorités de divers pays qui arrivent.
Évidemment, il doit y avoir également un dispositif sécuritaire très relevé.
Et évidemment, on a élevé les dispositifs de sécurité à haut niveau, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent déjà à partir d'aujourd'hui pour assister aux funérailles du pape ce samedi. On voit des militaires, des policiers, de ce qu'on appelle aussi des carabinières, qu'on peut comparer un peu aux gendarmes pour d'autres pays. Donc les dispositifs de sécurité, on les voit et on les sent, des hélicoptères qui circulent. Et puis des policiers aussi qui sont dans des endroits stratégiques de la ville de Rome.
Père Jean-Pierre Bodjoko, vous avez couvert les obsèques du pape Benoît XVI et cette fois-ci vous êtes sur place pour ce qui concerne le pape François. Quelle est la particularité des obsèques du pape François selon vous?
La particularité d'abord, c'est que le pape François a été un pape spécial. Disons, comme les gens l'appellent, le pape des pauvres, le pape des démunis. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on voit beaucoup hein, de gens de petite classe qui viennent rendre hommage au pape, à part évidemment les fidèles habituels, et ce sont les plus démunis qui se sentent orphelins cette fois-ci. Et puis l'engouement, c'est toujours un peu pareil comme c'était pour les autres papes, notamment le pape Jean-Paul II. Mais là, on sent aussi une grande différence, plutôt des pauvres qui disent « nous avons perdu notre papa ».
Le pape François avait, dans son testament, demandé des funérailles simples. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous le voyez? Comment cela se reflète-t-il?
Alors, cela se reflète d'abord même par la façon d'exposer son corps. Les autres papes, on voit le corps dans la basilique, disons, pas encore dans le cercueil. Mais même si pour Jean-Paul II, on avait aussi fait la même chose, mais pour le pape François, on sent la simplicité. Par exemple, il a demandé dans son testament qu'il ne soit pas mis sous la forme habituelle de 3 cercueils. Il y aura seulement 2 cercueils dans lesquels se trouve maintenant sa dépouille. Ça se sent déjà. Et puis, de l'autre côté, il a demandé de ne pas être enterré dans la basilique Saint-Pierre, mais plutôt dans la basilique Marie-Majeure, là où il affectionnait d'aller régulièrement prier la Vierge Marie.
Vous avez évoqué un monde fou qui est en ce moment à Rome. Est-ce qu'il y a des délégations congolaises qui sont sur place? Est-ce que vous avez rencontré des Congolais?
Alors, il y a des délégations congolaises, évidemment, puisqu'il y a d'abord des Congolais qui vivent à Rome. Mais ce n'est pas discret. On sait qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui arrivent. Et je crois que même le chef de l'État de la République démocratique du Congo arrive à Rome aujourd'hui, comme beaucoup d'autres chefs d'État qui arrivent aujourd'hui, vendredi 25 avril à Rome. Et je crois qu'il y a déjà certains Congolais qui sont arrivés à Rome pour assister aux funérailles du pape.
Alors pour terminer, Père Jean-Pierre Bojoko, en un mot, c'est quoi qu'on retient comme héritage du pape François?
L'héritage du pape, c'est un pape qui a tourner son pontificat dans la grande simplicité, que ce soit dans sa pastorale, que ce soit dans ses discours. En tout cas, il était attentif aux pauvres et à la périphérie. Ça signifie les gens qu'on oublie souvent dans la vie ordinaire. Et on l'a senti dans sa façon de faire, on l'a vu manger avec les pauvres, on l'a vu visiter ce qu'on peut appeler des petits pays par rapport à des grands pays. Un pape avec une grande humilité, un pape pour les faibles, un pape des pauvres.
Père Jean-Pierre Bojoko, je vous remercie.
Et à vous tous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci de nous avoir suivis.